Hey, salut tout le monde, bienvenue au Trio économique. Généralement, vous savez, là, on essaie de faire une petite intro, là, on présente les sujets qu'on va parler, mais là, c'est le Trio économique. Ça ne sert absolument à rien parce qu'on a probablement seté des sujets. Vincent a préparé les études qu'il veut nous présenter par ces sujets-là. Puis dans 5 minutes à peu près, je vais fucker le chien et poser une question, puis il va prendre 15 minutes à répondre, puis ce ne sera pas le sujet principal. Fait que, comme commencer à connaître la sauce. Fait qu'on est prêt à commencer le trio économique après 15 minutes de setup de micro à Vincent qui ne marchait pas encore.
C'était pas 15
Comme
minutes.
d'habitude.
Arrête, arrête.
15
Ça a
minutes
duré.
facile, man.
Premièrement, toi, t'es arrivé une demi-heure en retard, fait que tu peux te l'enfoncer ou je pense que tu peux te l'enfoncer. Deuxièmement, ça a pris deux minutes. OK? Comme toi.
Ouais. C'est bon, on commence
le problème, c'est que le problème, c'est que tu entendais ta voix, puis après ça, on ne l'entendait plus, mais nous autres, on l'entend encore, par exemple. C'est ça qui est.
Ah, je sais, c'est la partie
difficile. Agressant.
C'est un peu comme suivre les débats de l'Assemblée nationale.
Ouais.
T'aimerais mieux pas entendre
non,
quoi que ce soit.
J'aimerais t'insulter en te disant que tu es aussi pire qu'eux autres, mais quand même, je te ferais pas ça. Là.
Non, non, non. Je pense qu'il y a des limites à quel point.
Mais moi, je trouve que c'est quand même. Moi, je trouve que c'est quand même. Comment je pourrais dire ça? Ils sont drôles, mais ils ne savent pas. T'sais. C'est
ça. Non, non, mais tu sais, quand tu fais des efforts pour être comique, c'est correct. Quand tu fais des efforts pour être comique par inadvertance, ça, c'est vraiment triste.
Il faut quand même l'avouer, là, l'autre fois, là, quand, dans son discours inaugural, ben, pas son discours inaugural, mais son speech de départ, là, quand Sol Zanetti a trouvé le moyen de parler de liberté et citer Karl Marx au travers, moi, j'ai trouvé ça quand même assez spectaculaire. C'est presque un art de faire ça, il faut l'avouer. Lui, il n'est pas au courant. Là, dans sa tête, tout est correct. Mais de mon point de vue, j'étais comme « OK, c'est une belle grosse chire. »
Non, mais je trouve toujours ça drôle, la définition que plusieurs personnes ont de la liberté. Il y a
ouais,
quelques années, je me souviens, il y a quelques années, j'avais eu un débat avec quelques années, plus que 10 ans maintenant, Simon-Pierre Diamond, qui était de la DQ, oui, c'est ça.
L'étoile filante.
Une étoile filante. Il n'était pas méchant comme gars, mais ça te montrait. On avait une discussion sur les principes libéraux. Puis à un moment donné, je dis, ben, la liberté, c'est important. Puis je l'ai dit de même. Dis, ouais, mais la liberté, ça ne veut pas dire que tu as le droit de faire tout ce que tu veux dans le monde. Là. Ça ne veut pas dire que tu as le droit je suis libre d'être pédo. Puis c'était ça son argument. Puis il dit,
j'étais comme boire, ça va.
Puis, penses-tu que tu devrais être libre de faire tout ce que tu veux? J'ai dit, non, c'est pas comme ça que c'est défini. Il y a des limites. Puis c'est pas la même chose que licence. Là. Les gens pensent que liberté, ça veut dire licence, que tu peux faire tout ce que tu veux. Mais
License to
non.
kill.
Non, non, mais c'est
tout le temps ça, la technique, là, c'est que quand tu as un principe ou une idée à défendre, ben, tu as bien du monde que pour la discréditer, ils vont en faire une caricature absolument. C'est comme quand tu parles d'anarchie, mettons. Là, il n'y a personne d'un penseur anarchiste qui a dit que, ouais, ben là, il allait avoir aucune règle, ça va être le free fall, tu vas avoir le droit de tuer les autres, puis tout. Mais quand tu as quelqu'un, genre, qui connaît pas ça, il est comme, ben, c'est ça, toi, tu veux le chaos, tu veux l'anarchie, puis là, tu sais, ouais, non, c'est pas tout à fait ça. Je pense pas que c'est viable non, tant oui. que ça, là, un système anarchique. Là.
Ouais, mais c'est pas ce la que toi t'en dis. Puis des fois, ça c'est quand c'est la caricature, mais des fois, tu as la version caricaturale d'une personne qui pense qu'il veut le dire bien, comme par exemple ça, les Zanetti, où est-ce que dans sa tête, ce qu'il faut, c'est pour être libre, il faut que l'État se sert de sa coercition, de ses pouvoirs coercitifs pour prendre à une personne et redonner à lui pour que lui ait plus de choix et donc soit plus libre qu'il l'aurait été.
Dans la tête de bien du monde, la liberté là, dans leur tête, c'est le film La Purge. Là, come on, c'est tellement pas ça, là, mais c'est pas grave. On vous pardonne, vous qui ne sachez point.
Ouais. Mais moi, ce que j'aime le plus, c'est la définition de la liberté de quelqu'un qui est membre d'un parti libéral. Ça, c'est en général, c'est vraiment elle qui est la plus raffinée. Tu sais, mettons que tu demandes à Justin Trudeau, c'est quoi pour lui la liberté? Je serais vraiment curieux d'entendre.
Non, 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 je veux pas entendre ça. Je veux pas entendre la réponse, tout simplement parce
que... En fait, tu faudrait demander à la personne qui parle dans l'oreillette, elle pourrait nous le dire, parce que lui, je sais pas s'il est au courant.
mais peu importe c'est quoi, je veux pas entendre la réponse, tout simplement parce que, à un moment donné, il y a des limites à ce que mon cœur peut prendre.
Oui, ben c'est ça, là. C'est quand même, on voudrait pas que le cœur te lâche.
Bon, fait que de quoi qu'on parle, là? Le salaire minimum?
On avait une bévie de choses quoi, qui nous intéressaient. On avait Stéphanie Gramont dans la presse qui nous expliquait que l'inflation était en partie due par les monopoles dans les épiceries.
Oui.
Écoute, oh, oui. Ceux qui sont en audio, là, la face que Yann vient de faire,
ça tabarnak.
Ça met bien mais... cette affaire.
By the way, je veux juste dire pour là, ça ne sera plus d'actualité quand le podcast va être public. Tenez, là, mais pour M. Marissal, les clémentines sont en spécial.
Fait qu'il peut, quoi?
Il peut. Non, c'est parce que cette semaine, il était en breakdown parce qu'il avait vu une caisse de clémentines à 7$. Au IGA ou je sais pas trop. Là. Fait que là, ils sont à 3 et quelque chose. Fait que
si ouais, mais c'est parce qu'il capotait parce qu'il annonçait qu'il était à 12 la semaine avant. T'es en rabais, genre. Hey, sérieux. Les politiciens qui parlent d'économie. Là.
Ah, c'est pas chic. C'est vraiment, vraiment pas chic.
Puis les journalistes économiques qui parlent d'économie là, au Québec.
Effectivement, je sais pas lequel des deux. J'ai plus tendance à être frustré à l'égard de...
Ah, c'est plus les journalistes économiques. Tu sais, je veux dire, tu te crées une réputation où est-ce qu'on te voit... Tu sais, parce qu'elle écrit des bons textes de temps en temps, là, Stéphanie Gramont. Elle a vraiment fait des bonnes choses.
Une horloge brisée à raison deux fois par jour. Hein.
Non, mais tu sais, quand ils s'en tiennent aux faits, généralement, puis qu'ils sont loin du politique, là, tu sais, mettons qu'elle t'explique c'est quoi l'avantage d'un REER ou c'est pour quelle raison la RRQ faut retarder un peu ça ou des choses comme ça. Il y a plusieurs bons textes de Stéphanie Gramont qui sont carrément des références dans l'industrie de la finance personnelle. Là. Elle ne fait pas juste du mal. Fait que, ils se construisent une réputation avec des bons textes de qualité de cette façon-là. Puis ils vont tout démolir ça la journée qu'ils essaient d'avoir l'air intelligent puis de parler d'économie quand ça touche un peu la politique.
Oui, mais ben ça d'ailleurs, j'ai jamais compris. Mais là, j'essaie de retrouver son texte. Mettons un peu sur la table ce que Gramont a dit. Là. Ce qu'elle a dit fondamentalement, c'est que dans le secteur de l'épicerie, il y a des oligopoles qui font collusion pour faire monter les prix. C'est l'entièreté de son argument, mais là, tu le vois dans ce cas-là, dans l'inflation. Le problème, c'est qu'en théorie économique, il n'y a pas de raison de lier l'inflation causée par les politiques monétaires à des monopoles. Il n'y a aucune raison de croire que des firmes compétitives ou des firmes monopolistiques répondent différemment à un changement dans la masse monétaire.
Non, le monopole nous coûte tout le temps trop cher, mais genre 100% du temps. Là.
Puis non seulement ça, mais les autres types de chocs, parce que là, je vais faire le péché mortel que je dis tout le temps, de confondre inflation avec changement de prix, parce que j'arrête pas de dire que si, mettons, c'est juste le prix de l'essence qui change parce qu'il y a moins de pétrole sur Terre ou qu'il y a un choc ou il y a une guerre, c'est pas de l'inflation, c'est juste un changement important du niveau des prix à cause d'un choc à l'offre ou un choc sur la demande.
On parle d'épicerie, on parle d'augmentation des prix à l'épicerie.
Exactement, mais l'affaire, c'est que si, mettons, il y a un oligopole, ça ne peut pas expliquer l'inflation. Parce que ce qui se passe, c'est quand c'est des chocs sur l'offre, puis là, tu peux voir avec les autres textes que Mme Gramont a déjà écrit sur les chaînes d'approvisionnement, parce que c'est prononcé sur le sujet. Si, disons, il y a un choc sur les chaînes d'approvisionnement, c'est-à-dire c'est un choc sur le côté de l'offre, s'il y a un choc sur le côté de l'offre, ça veut dire que le coût de toutes les unités produites va augmenter. Mais un monopole, la manière dont ça fonctionne, c'est comme il fait face, ou un oligopole, comme ils font face au marché presque tout seul, quand il y a un choc sur l'offre, sur les coûts de production, ils vont augmenter les prix moins que des firmes compétitives, parce qu'ils vont devoir absorber, eux, une partie du choc sur les coûts, tandis que dans des firmes compétitives, le choc est entièrement repassé aux consommateurs. Donc, théorie économique 101, en fait, c'est une question d'examen que mes étudiants avaient l'année passée. J'ai trouvé ça vraiment drôle. Je l'ai donné à mes étudiants de maîtrise. J'ai dit, deux économies, toutes choses étant égales, sont toutes pareilles. La seule différence, c'est qu'il y en a une qui a beaucoup de monopole, l'autre n'a pas beaucoup de monopole, puis il y a un choc sur l'offre qui affecte les coûts de production de toutes les firmes, puis toutes les firmes sont égales, mettons. J'ai dit, laquelle des deux va avoir la plus grosse augmentation des prix? Pas le niveau le plus élevé, la plus grande augmentation. Ouais, c'est l'économie compétitive qui va avoir la plus grande augmentation. L'économie non compétitive, où est-ce qu'il y a des monopoles, va avoir une plus petite augmentation, même si le niveau est déjà plus élevé. Mais tu ne peux pas expliquer la vitesse assez importante de l'inflation au Canada en parlant des monopoles. En fait, à toute fin pratique, ça limite changement des prix.
J'aurais tendance à penser que pour un monopole, son objectif, c'est de se maintenir dans le temps aussi. Donc, mm-hmm. elle ne doit pas nécessairement, le monopole ou l'oligopole ne doit pas se mettre le public à dos. Donc, s'il y a un choc, comme tu dis, puis il y a une augmentation de prix de 10%, par exemple, à passer à la population, ils n'auront pas tendance à le donner tout de suite. Ils vont essayer d'y aller beaucoup plus progressif pour essayer d'amoindrir ce choc-là en se disant, ben, je le prends un peu dans mes profits qui, à la base, sont excessifs de toute façon. Puis, éventuellement, je vais continuer à passer la facture dans le temps. Fait que comme ça va être plus smooth. Et cette smoothness-là va m'assurer que le clash envers le public ne sera pas trop grand et qu'il n'y aura pas une demande de la part des gouvernements pour venir briser mon monopole ou mon oligopole. Moi, dans ma perspective, si j'étais un dirigeant d'oligopole, ce serait ma façon de voir. Essayons de ne pas frustrer trop rapidement le consommateur pour qu'il demande au gouvernement de briser notre avantage net. Il y a une logique à ça. Dans le marché compétitif, tu ne peux juste pas faire ça. C'est une question de survie là, de passer l'augmentation de coûts aux consommateurs.
Si tu le passes pas au complet, un de tes concurrents, si tu le passes en partie, puis tes concurrents font la même chose, toutes les firmes vont quitter le marché. Puis si toi, tu en passes moins que la partie, toi puis tes concurrents ne le font pas, toi, tu vas saigner, puis tu vas devoir quitter le marché tout seul. Il n'y a aucune firme qui fait ça dans un marché compétitif. Mais l'autre affaire qui est vraiment débile, puis c'est pas juste l'absence de logique, parce que le raisonnement ici, je ne m'attends pas à ce qu'un journaliste comprenne ça. Si je demande cette question-là à des étudiants de maîtrise, c'est pas une question que je m'attendrais à ce qu'un journaliste comprenne.
C'est normal.
Je ne vais pas l'enlever là-dessus, mais par contre, l'idée que les...
Comment c'est la réussite de cette question-là, juste pour le fun? C'est une question qui est vraiment échouée.
C'est dur d'évaluer la réussite à mes questions d'examen parce que ce que je fais tout le temps, c'est que je donne aux étudiants genre 48 heures pour le take-home. Puis c'est des questions, tu sais, il y a trois blocs. Puis je leur dis, vous devez choisir à l'intérieur de chacun des blocs deux des trois questions. Fait que les étudiants qui choisissent cette question-là sont ceux qui se sentent la plus confortable avec.
Okay.
Donc, le taux de réussite pourrait être de 100%, mais j'ai genre 30% des étudiants qui ont pris cette question-là. Donc, tu sais, ça veut... Je peux pas savoir si ceux qui ont décidé de répondre deux autres dans ce bloc de questions-là...
Ouais, si c'est parce qu'ils savaient pas quoi répondre à celle-là ou qui aurait répondu à la mauvaise chose. C'est dur de le mesurer. Là.
Mais celle-là, dans mon examen, je dois admettre que je pense que c'était la plus facile de celles que moi j'assigne parce que apparemment, mes examens sont très pénibles. Mais étrange, en fait, les étudiants, ils aiment. Je vais faire une petite parenthèse. La réaction que j'ai de mes étudiants généralement, c'est que je fais des examens vraiment différents. Tout le monde, mes questions sont vraiment très difficiles. Puis tu ne peux pas aller dans le manuel. Il faut vraiment que tu fasses l'effort de pratique. Mais je donne des périodes de temps vraiment plus élevées. Donc, normalement, les gens ont des examens où est-ce qu'ils sont assis, puis ils ont 2 heures pour faire ça. Moi, je leur dis, vous avez 48 heures pour faire l'examen. Vous pouvez choisir des blocs de questions que vous voulez répondre. Donc, tu sais, vous avez un élément de choix là-dedans.
Il y a une grande conciliation, pareil, dans ça. Là.
Oui, et puis ça, je dis, mais vous pouvez en plus vous consulter entre vous, puis vous pouvez répondre à plusieurs, puis ça ne me dérange pas. C'est juste que si vous mettez tous vos œufs dans le même panier puis vous faites confiance à un doute de faire l'examen pour vous, c'est possible qu'il y ait la mauvaise réponse puis que vous couliez tous. Donc, ce qui se passe, c'est que les étudiants sont encouragés à collaborer. Ils ont des examens qui sont en substance beaucoup plus, je dirais même 10 à 15 fois plus difficile que d'habitude, mais la manière dont je les laisse faire, je pense que ça arrive à la même chose qu'un examen normal. Puis les étudiants, jusqu'à maintenant, j'ai des bonnes réactions. Fait que ça, c'est pour la maîtrise. Pour le bac, je ne pense pas que je pourrais faire ça, mais pour la maîtrise, ils sont très cohérents. Même au doctorat aussi, parce qu'ils sont ensemble puis ils se tiennent ensemble, ils peuvent se jaser. Mais parenthèse fermée, là, la chose la plus ridicule, c'est l'idée que les épiceries sont des oligopoles. Ça, c'est la partie la plus sidérante de l'argument. Pour que tu aies une des conditions que pour du market power, c'est qu'il doit y avoir des barrières à l'entrée. Les arguments du nombre de firmes dans l'industrie, c'est l'argument le plus con. Parce que, par exemple, tu vas aux États-Unis et tu regardes, je pense que c'était un de mes amis qui m'avait fait remarquer ça, j'avais trouvé ça vraiment drôle. Les gens vont souvent prendre genre les données sur la concentration industrielle. Si tu vas aux États-Unis, genre il y a peut-être 10-15 ans, il y avait dans le marché des manufacturiers, des fabricants de cellulaires, il y avait une seule firme qui avait 100% de toute la production. Et là, le mot production ici est important. 100% de toute la production des cellulaires aux États-Unis. C'était Motorola dans le temps. Puis là, dans cette définition-là, l'industrie du téléphone cellulaire était... L'industrie du téléphone cellulaire était un monopole. Bien, premièrement, c'est pas vrai parce que la donnée ici n'a fait aucun sens parce que tu avais de la... Les téléphones, les autres téléphones étaient importés. Mais aussi, c'est pas si difficile que ça, rentrer dans le marché du téléphone puis d'inventer un nouveau produit. Parce que tu regardes quand ce fait-là sortait sur Motorola.
C'est quoi, c'est Nokia qui avait comme compétiteur à l'époque qui était gigantesque?
Ah oui, hein, moi je me souviens d'Ericsson aussi dans le temps.
Hey, Nokia, ouais. Là, les gens, ils savent ça, pas, mais je pense...
C'était huge.
C'est suédois, je pense. Hein, Nokia, si je me trompe pas.
Je pense que c'était finlandais.
Finlandais, en tout cas, peu importe. La bourse de son pays, c'était le 2/3 de l'indice, c'était Nokia. Là.
Oh oui. Il y a eu beaucoup de hit and run là-dedans, puis finalement, ça a fait des
BlackBerry Research.
C'est ça, j'allais dire. BlackBerry, ça a été incroyable.
Mais le nombre, ce qui détermine vraiment la compétition dans une industrie, c'est pas le nombre de firmes, c'est la capacité ou non pour des joueurs d'entrée de faire des raids à toute fin pratique si une firme qui est tout seule agit comme un monopole. Puis juste la menace d'entrée, souvent,
est suffisante
pour générer des conditions compétitives, même s'il y a juste une firme. Puis je m'excuse, mais le monde des épiceries, c'est probablement le monde le plus facile dans lequel s'insérer parce que tu as tellement de différents manufacturiers, de transformateurs alimentaires qui peuvent eux-mêmes entrer dans l'industrie en établissant leur propre chaîne de distribution. Meilleur exemple, il y a 10 ans, 15 ans, Walmart ne faisait pas d'épicerie. Walmart fait des épiceries. Avant, tu avais...
Costco.
Mais des joueurs peuvent disparaître. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se souviennent de Steinberg au Québec.
Ouais, Steinberg.
Ou tu avais aussi à Montréal, c'est dans le coin des Italiens, tu avais Esposito, qui était mon épicerie préférée parce qu'il vendait plein de trucs italiens. Puis il faisait c'était super le fun. Puis mon père étant italien, c'était le fun d'y aller avec lui. Mais cette épicerie-là, les nombres de chaînes ont largement disparu. Dans le temps, tu avais...
Ben, le nombre de petites épiceries.
Marché Richelieu.
Ouais, marché Richelieu. Ça existe encore, Marché Richelieu.
Ah oui, ça existe encore.
Oui,
ça existe.
En fait, ça a presque disparu. Puis ils ont absorbé les Bonichois. T'avais une autre petite chaîne là, de
ça n'a pas été intégré avec Métro. Il me semble que j'ai un souvenir
vague. Ça se peut aussi.
Mais c'est ça. Mais l'idée qu'il y a des oligopoles dans les épiceries, c'est vraiment parce que si tu vas au bureau de la concurrence, puis ça, c'est ma plus grande critique du bureau de la concurrence, c'est que la plupart des économistes qui sont là, il y a deux... En fait, vraiment, la moitié du staff, c'est pas des économistes, c'est des avocats. Puis c'est déjà un très mauvais départ pour faire de l'analyse. L'autre aussi, c'est qu'il y a un effet de sélection dans qui travaille au bureau de la concurrence. C'est ceux, généralement, qui... Je te jure que c'est l'économiste qui se retrouve au bureau de la concurrence, c'est pas l'économiste médian. Tu as un effet de sélection, tu as des économistes qui croient, qui font partie de l'école de pensée, que c'est le nombre de firmes qui détermine la compétition, qui vont pas participer au cadre dans lequel auquel moi j'adhère. Ça veut pas dire qu'ils sont nécessairement mauvais, mais l'effet que ça a, c'est que tu as comme un sous-ensemble d'économistes qui font peut-être 20, 30 ans de la profession, qui vont être super blocs, qui vont être super cohérents au bureau de la concurrence. Ouais. Puis là, ils vont avoir d'être 100% du bureau de la concurrence. Mais à cause, ça vient avec les temples d'autorité du bureau de la concurrence. Des gens dans les médias vont penser que c'est le seul point de vue qu'il y a à l'égard de la concurrence. Même si je te dirais que mon paradigme à moi, que le nombre de firmes, c'est pas important. C'est vraiment les barrières à l'entrée. C'est le paradigme dominant.
Puis tu le vois, ouvrir une épicerie, ça n'a pas été compliqué. Je vais te donner un exemple qu'on a vu.
Adonis a ouvert en plein milieu de la pandémie.
Exact. Dans la région de Québec, justement, avec Jeff Fillion, il annonçait, par exemple, le marché... Panier Extra, c'est ça. Mais Panier Extra, c'est comme l'ancien... la fruiterie là, que tout le monde allait là, à Québec, qui est comme Jardin Mobile. Jardin Mobile. Ça a comme planté, cette affaire-là, où ça n'allait pas bien. Jardin Mobile ferme. Ça a pris genre un mois. Il y a un gars qui est arrivé, qui a ouvert ça. Puis, tu sais, il n'y avait pas grand stock dans les tablettes au début. Là. Tu vois que ça commençait. Puis c'était une épicerie vraiment très, très, très bon marché. Il passe du stock qui coule en liquidation, qui a pogné à d'autres places. Puis la rapidité, c'est pas mon genre d'épicerie favori, mais quelqu'un qui veut vraiment économiser de l'argent, il y a du stock là qui est sur le bord de passer date qui fait vraiment la job. Là, c'est vraiment pas cher.
Ben, en fait, il exploite une faille un peu dans notre système, c'est-à-dire que nos normes d'étiquetage font en sorte que les épiceries doivent se débarrasser de trucs qui sont encore très bons. Oui, fait que tu sais, les yogos et tous ces trucs-là. Moi, j'ai déjà mangé des yogos, ça fait 6 mois qu'ils sont passés date, sont encore bons. Fait que tous ces marchés-là des détaillants, là, je ne sais plus comment ils les appellent, là, mais des trucs comme le panier extra, ça s'est multiplié un peu dans plein de régions du Québec parce que eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils ramassent des trucs théoriquement sur le bord où la date est passée, il est liquide, puis à prix bon marché. Mais si ces normes-là n'existaient pas, en réalité, le truc sera encore à l'épicerie. Là.
Puis moi, ce que j'ai remarqué, en tout cas, parce que de par le fait que c'était juste en dessous de Radio Pirate, on allait à Radio Pirate sur place à cette époque-là. Fait que j'ai pu vraiment voir l'évolution de la création d'une épicerie out of nowhere. Tu sais, ça n'existait pas ailleurs, c'est pas une chaîne, c'est rien. C'est vraiment un gars qui a décollé ça, bing bang. Pas vu de barrière à l'entrée là. Tu sais, tu t'as vu, ça a vraiment commencé minuscule avec des tablettes dégarnies. Puis ça le gros attends, aussi attends, tranquillement.
Les dates de péremption, là, by the way, je ne sais pas pour le Canada, mais aux États-Unis, c'est pas un requirement réglementaire. C'est vraiment les firmes qui ont fait ça d'eux-mêmes, largement pour donner de l'information aux consommateurs. Mais
j'aurais un doute qu'il n'y ait pas de gouvernement dans le Canada. Ouais. Par contre.
Je ne sais pas pour le Canada, mais vraiment, moi, la première chose que je me suis dit quand tu as posé la question, j'ai vraiment écrit Expiration Date Regulation. Puis là, je suis tombé sur USDA. Except for infant formula, dates are not an indicator of the product safety and are not required by federal law. Donc, ça, c'est directement du USDA, donc United States Department of Agriculture, qui est probablement le ministère que je déteste le plus aux États-Unis. De tous les ministères, pour vrai, là, il est au top de ma liste de ceux que j'aimerais vraiment... C'est une dispensation de subvention, puis étrangement, il y a comme plein de programmes que USDA gère qui ne sont pas des programmes liés à l'agriculture, comme par exemple les food stamps. Mais
pour tout ça pour dire que honnêtement, dans le monde de l'épicerie,
J'adore
ton critère que tu utilises de dire il faut que tu regardes les barrières à l'entrée pour voir si on est en situation d'oligopole ou pas.
Yep.
J'ai pas vu de barrière à l'entrée, honnêtement, suffisante pour empêcher la création d'une épicerie comme ça. Je comprends qu'il y a une tendance à la fusion-acquisition puis à créer des empires gigantesques. Ça, ce bout-là, je le comprends. On parle d'une industrie.
C'est pas mauvais, ça. Hein?
Je sais. Je suis pas un retard, là. Tu peux prendre pour acquis que je le savais.
Non, mais pour les auditeurs. peut-être qu'on a des gens de sortant les poubelles qui sont de cette catégorie-là.
Oui,
de
fair enough. Fair enough. Ça, c'est des retards pour vrai. mais l'affaire, c'est effectivement, tu sais, c'est une industrie qui naturellement va avoir des gains de productivité importants avec la centralisation de la chaîne de logistique. Tu sais, je veux dire, il y a un avantage à avoir des entrepôts gigantesques avec des camions qui sortent à tous les jours, avec des inventaires en temps réel, électroniques. Tu sais, tu es vraiment dans une position où est-ce que bigger is better dans le monde de l'épicerie parce que justement, pour avoir des accès technologiques, des développements technologiques qui permettent d'avoir une chaîne de logistique aussi efficace, ça prend quand même une base, ça prend quelque chose d'un peu plus gros. Mais ça n'empêche pas que demain matin, un joueur peut ouvrir très, très rapidement dans un marché de niche. Pensons au supermarché Avril. Il n'y avait rien de ça au Québec il y a je ne sais pas combien d'années. C'est ça n'existait pas. Là. Les Avril, la star, ça pousse partout. Tu regardes un nouveau développement de outlets. Généralement, il va y avoir un Avril dedans. Ça vient carrément avec les nouveaux outlets qui rouvrent. Alors qu'en réalité... Il n'y avait même pas d'outlets il y a 20 ans, là, en plus. On était tous dans des centres d'achat.
Juste préciser quelque chose. Je fais ce que les journalistes ne font pas. Je m'auto-fact-check. Et là, je suis sur le site de la MAPAC. Et effectivement, Vincent, tu avais la bonne intuition. Vendre ou donner un produit dont la date de conservation est dépassée. Aucune disposition légale n'oblige un exploitant à jeter un aliment dont la date limite de conservation est dépassée. Toutefois, il doit effectuer une rotation appropriée des aliments et il a toujours la responsabilité de vendre ou même de donner des produits propres à la consommation. Si ces produits dont la date de conservation est dépassée sont vendus, il est suggéré de les placer dans un étalage distinct ou d'y apposer une étiquette. Un peu ce que tu vois dans les, je pense, les Provio qui met des stickers genre marqué 30, ouais. moins 30% ou des trucs
comme mais ça. Tu me surprends vraiment.
Ouais, moi, j'étais sûr. Fait que je m'excuse si j'ai induit des gens en erreur, là, mais j'étais sûr qu'il y avait un règlement par rapport à ça. Donc, c'est, en fait, c'est le marché des épiceries qui s'est comme auto-réglementé avec cette yep. norme-là. Là.
Mais c'est parce que les consommateurs... Puis ça, c'est la partie qui est... Avant que tu passes au lien que je t'ai envoyé, là,
ouais.
les gens doivent comprendre que quand tu consommes à l'épicerie, les gens pensent que tu achètes juste de la bouffe. Bullshit, tu n'achètes pas juste de la bouffe. Tu achètes un paquet de services. Regarde maintenant tous les services qui viennent avec l'épicerie. Tu as des restaurants maintenant dans les épiceries. Aux États-Unis, ici, dans les Whole Foods.
Boulangerie,
littéralement un restaurant. Tu as des sandwichs, des lunchs pré-prêts. Tu as beaucoup plus de services que juste l'aliment que tu achètes pour transformation. Quand tu essaies de mesurer les prix en épicerie, ça, c'est vraiment... Puis, écoute, il y a plein de papiers techniques vraiment plates pour les gens là, que moi, je suis obligé de lire parce que la construction d'indices de prix, c'est une chose que je fais, littéralement. Mais c'est plate parce que des fois, la question, c'est quoi que tu mesures exactement? Des fois, ce que tu mesures comme prix, c'est un flot de services. Disons, la personne qui a lavé l'aliment pour toi. Donc, par exemple, regarde juste la personne qui... Les homards en épicerie. Les homards...
Es-tu déjà cuit? Es-tu vivant?
Es-tu cuit? Es-tu
la viande hachée.
Mais s'il est juste dans un tank, est-ce que c'est la même chose que le homard dans une poissonnerie? Ou est-ce que... Tu as plein de détails qui sont vraiment importants.
Tu achètes l'ananas qui est déjà prêt ou qui est déjà coupé.
Exactement.
C'est pas le même prix. Là.
Oui, oui. Puis il faut que tu saches exactement c'est quoi que tu mesures. Mais ça peut être aussi juste comme... l'exemple que, ça c'est Bob Fogel qui est un lauréat en économie, il parlait souvent d'épinards, ça a l'air plate là, mais lui ce qu'il disait c'était quand il était petit, il devait aller au marché acheter plusieurs livres d'épinards, il les ramenait puis sa mère devait les laver puis tout ça, puis tout ça, puis il dit quand tu tiens compte de l'inflation, le prix des épinards à l'époque est à peu près le même qu'aujourd'hui. Il dit, ben, ça veut-tu dire qu'il n'y a pas eu d'innovation avec les épinards? Il dit non, si tu vas aujourd'hui à l'épicerie,
Sont lavés,
sont dans une belle boîte de plastique, sont bien préservés. Tu n'as pas de triage à faire, tu n'as pas de trimage, tu n'as pas enlevé. Puis ça a l'air, c'était long. Lui, il décrivait que pour nettoyer une livre d'épinards, sa mère devait passer genre une heure. Puis c'était long parce que tu sais, la terre s'insère très, très bien.
Ah, je le crois.
Dans le temps, tu n'avais pas d'eau. Fait que là, c'est quoi que tu mesures? Là? Tu mesures plus juste le prix de l'épinard, tu mesures le prix de l'épinard plus le flot de travail qui est associé à la transformation pour qu'il soit plus propre. Donc, techniquement, le prix réel a baissé. Puis là, quand tu regardes, disons, le prix en épinards en canne, disons 1910 versus aujourd'hui, la baisse de prix, c'est genre 90%.
Ouais.
Ce qui est incroyable, ajouté pour l'inflation.
Tu n'achètes pas juste un aliment, tu achètes ton propre temps libre, en fait.
Oh, oui.
C'est comme quand tu achètes un paquet de champignons qui est comme en vrac puis un peu pas nettoyé, ou l'autre à côté où ils sont tous nettoyés puis sont tranchés en tranches. Ben là, qu'est-ce que tu fais quand tu fais ça? Tu le payes plus cher, mais tu achètes ton propre temps libre où tu n'as pas eu à nettoyer, couper, trancher tes champignons.
Mais l'affaire, c'est que ça, c'est ce que les journalistes ne comprennent pas. Puis c'est vraiment. Puis là, c'est pour ça que je les blâme pas là-dessus, là, sur celle-là. Mais tous ces services-là qui viennent à côté, que les épiceries fournissent, c'est des services qu'on consomme plus parce qu'on est plus riche. C'est des affaires que si on était pauvre, on ne pourrait pas se permettre.
Le prêt-à-manger en 1960, ce n'est pas populaire. Là.
Non, non. McDo, là, la raison que c'était innovateur en 1960, c'était vraiment que c'était hyper rapide. Mais les Américains n'avaient pas le temps de prendre 15 minutes pour sortir de leur chemin. Ils n'avaient même pas le temps.
Un take-out à l'époque, parce que j'ai écouté le film de McDo, puis j'ai lu le livre aussi là, du monsieur Croc. Vraiment, je l'ai déjà parlé dans un podcast. Très bon livre, très bon film. Le film et le livre ne sont pas pareils. Vous allez triper à lire ça. Puis justement, l'innovation de McDo, c'était dans le temps. C'était pas la qualité de la bouffe. Puis, il était freak sur la standardisation. Tu sais, la frite, il faut qu'elle soit parfaite. Peut-être. On comprend ce bout-là dans le film. Mais la vraie innovation, c'est que les concurrents de McDo, c'était des drive-thru. Puis, ça prenait 20 à 25 minutes à te faire servir une bouffe qui était pas très chaude. Tu arrivais au McDo, tu faisais la file, tu avais ton burger, tu mangeais, tu partais. C'était ça l'innovation. C'est pas une grosse innovation, vous allez dire, mais c'était tellement une bonne innovation, il y avait des méga files. Puis ça faisait moins long de faire la file pour avoir ton McDo que d'aller de toute façon dans un autre.
De t'asseoir dans un restaurant avec quelqu'un, avec un serveur qui te l'amène à ta table. Mais là, tu vois, toutes ces choses-là, là, dans les dernières, ça peut s'appliquer pour le McDo, mais ça peut s'appliquer aussi pour les épiceries dans les dernières 15 ans. Ça s'est fait très rapidement, là, ces changements-là, où est-ce qu'on est passé d'une épicerie dans laquelle on allait juste acheter des choses que nous-mêmes, on a transformées à la maison, à ce qui va être transformé pour nous. Mais toutes ces choses-là, on les mesure. Je veux dire, on n'est pas capable de capturer, d'ajuster facilement pour ça, mais c'est parce qu'on est devenu tellement riche dans les dernières 15 années que... ce qu'on appelle un bien normal, mais supérieur, dans le sens que nos revenus augmentent de 1%, on augmente nos dépenses sur les trucs déjà prêts en épicerie de plus que 1%, bien, le résultat, c'est qu'on a l'air de montrer qu'il y a une augmentation des prix, mais ce n'est pas vraiment une augmentation des prix. Fait qu'il y a un biais dans la partie, puis ça, c'est super bien documenté, ça s'appelle le biais hédonique.
Il y a un autre exemple
super bien documenté dans les indices de prix à l'inflation. Pour ça, quand tu prends n'importe quel indice de prix à l'inflation, là, peu importe, mettons dans les périodes normales, là, pas comme maintenant, tu enlèves à peu près un point de pourcentage. Fait que si l'inflation est à 3%, en réalité, l'inflation est probablement à 1%.
Ça, c'est vraiment intéressant parce que ce biais-là, tu sais, mettons, vous prenez le prix du téléphone cellulaire. Il a augmenté comment dans les 15 dernières années? Fait que prenez votre téléphone cellulaire de 2007-2008, les premiers Apple qui sortaient.
Il a baissé, by the way.
Le prix, tu sais, il a augmenté, baissé. Il n'a pas doublé, OK? Ça, c'est à peu près sûr. Mais t'es vraiment, là, tu regardes ça, tu dis, crème, attends un peu. C'est pas la même machine. Le téléphone cellulaire d'aujourd'hui versus celui de 2007, c'est hallucinant. Parce que moi, là, depuis que j'ai ce téléphone cellulaire-là, ben même, je te dirais, des 2-3 versions avant lui, j'ai plus de scanner dans ma maison. Puis on a beaucoup de scannage à faire dans le business d'industrie financière. J'ai pas besoin d'un scanner. Il y a tellement une bonne caméra là-dessus avec des bonnes applications de scan qui font en sorte que j'ai été capable de sortir les scanners de ma maison. Un scanner, pas industriel, mais commercial, c'est 1 000$ par 2 ans à peu près que ça me coûtait. On remplaçait les scanners à peu près aux 2 ans dans notre business. Puis c'était 1 000$ de l'achat, ce type de scanner-là qu'on avait. À cette heure, c'est nos téléphones qui scannent. C'est hallucinant là, quand tu y penses. Là. Quelle autre chose qu'on a pu éliminer de notre vie de tous les jours grâce à ces téléphones-là, c'est la quantité d'outils technologiques que ça remplace. Fait que, à un moment donné, tu es là, tu dis, OK, oui, il y a la mesure de l'inflation, il y a la croissance des prix des téléphones qui doit être mesurée, mais je veux dire, il y a des rabais aussi avec ces téléphones-là. Là. Ça nous évite d'avoir besoin de d'autres technologies dans nos vies.
Oui, puis toutes ces affaires-là sont vraiment dures à mesurer. Fait que c'est pour ça que quand tu prends l'indice des prix à prix à la consommation. Là,
je vais juste vous montrer quelque chose pour aller dans le sens de ce que tu disais, Yann et Vincent. Là. Je suis tombé sur un site qui s'appelle Timeline Price for Cell Phones. Ça, c'est un Motorola de 1996. Ça valait 1 000$ en 1996.
Aïe, aïe.
Aïe, ça fait rien, ça.
Tu réalises-tu ce que ça veut dire 1 000$ en 1987? D'ailleurs, en passant, là, une des manières d'ajuster pour le problème que je mentionne, là, c'est que tu arrêtes de diviser parce que t'arrêtes de regarder le prix ajusté pour l'inflation, tu regardes le prix en nombre d'heures travaillées. Parce que ce qui se passe, c'est que si, mettons, le prix augmente parce qu'il y a plus de services consommés dedans, que tu consommes maintenant parce que tu es plus riche, mettons, parce que c'est un bien normal, bien, tu vas capturer un peu de l'effet hédonique en divisant, en ayant le prix, ce qu'on appelle le time price. C'est comme une petite manière détournée d'éviter une partie du problème. Puis quand tu regardes les time price, ça n'a aucun bon sens comment...
Et ça, c'est débile.
Il y a des baisses incroyables.
En 1973, Motorola dévoile le prototype du premier téléphone cellulaire au monde. Le téléphone, qui mesure plus d'un pied de long, mesure 2 livres, coûte $3,995 en 1982.
Tu te rappelles-tu le film?
Il y en avait dans des films, effectivement.
Non, mais avec Michael Douglas puis Charlie Sheen avant qu'ils deviennent complètement débiles.
Non, je me rappelle pas.
C'était pas Wall Street. C'était pas. Voyons. C'était pas Wall Street. Oh, merde, j'ai un blanc de mémoire. Anyways, il y a une scène où est-ce que d'ailleurs, ce film-là, c'est le film que tout le monde pense que le méchant était méchant. Mais en réalité, c'est parce qu'il fait du insider trading. Puis tout le monde est là. Ben finalement, au final, c'est un bon gars, le gars qui fait du insider trading. Puis le film était devenu.
Wall Street.
C'était Wall Street? OK, c'est ça. le
1987.
C'est ça. Stone, qui voulait faire ça d'ailleurs, a donné un speech à Michael Douglas qui dit « Capitalism, greed is good ». Puis là, il en parle tellement bien que ça a comme backfire, où est-ce que lui, il voulait que ça soit vu comme que lui, c'était le vilain, mais en réalité, à la fin, tu étais un peu obligé d'aimer le méchant dans l'histoire. Puis t'aimais aussi le délit d'initié dans ce cas-là. C'était vraiment un film qui avait fait un backfire, que quand il a fait son remake comme 10-15 ans plus tard, ou la suite, il a comme été forcé de faire changer le speech, puis dire « Ouais, greed is good, but only when », puis là, il commence à faire tous les qualificatifs, toutes les choses,
puis tu vois
que ça l'a gossé, que ça a fait un backfire comme ça. Mais anyways, dans le film, il y a une scène où il y a le téléphone en brique que tu viens de montrer.
Oh ouais, genre, c'est malade.
Puis il est sur la plage, puis il dit « I will destroy you ». Puis il y a une espèce de grosse brique de même sur l'oreille,
Ah, non, c'est malade. Mais tu sais, est-ce que c'est possible que, je reviens un peu à l'histoire de l'épicerie puis du texte de Grandmont, là, c'est que, tu sais, l'inflation, c'est relativement quelque chose de nouveau là, pour beaucoup, beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas vécu. T'sais. Nous autres, à l'âge qu'on a, on n'a pas vécu vraiment de période
inflationniste. 1-2%, ce n'était pas dans nos priorités.
Oh, oui, c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, on n'a pas vécu ça d'aller à l'épicerie et t'as l'impression que ça coûte 30% de plus qu'il y a 2 ans, mettons. On n'a pas connu ça. Donc, ça crée, je pense, chez beaucoup de gens, un espèce de sentiment d'injustice ou de frustration. Et les épiciers ou les commerces de détail sont des boucs émissaires parfaits pour quelqu'un qui veut mettre le doigt sur quelque chose. C'est pour ça que des politiciens comme Jack Metzing, comme Gabriel Mao-Dubois, comme d'autres, vont pointer du doigt ces gens-là. Parce que c'est des cibles faciles, parce que ça touche tout le monde. Parce que si tu commences à parler du prix des maisons ou d'un autre indicateur, ça touche pas tant que ça tout le monde. Alors que l'épicerie, tout le monde mange, tout le monde va à l'épicerie. Puis,
En fait, c'est là que tu vois vraiment... C'est le bout du journaliste qu'on n'aime pas. T'sais, je veux dire, qu'un politicien fasse ça, honnêtement, on peut pas être surpris. Par contre, des journalistes qui se sont bâtis une crédibilité en économie qui fassent ça... Tu sais, encore là, c'est ça qu'il faudrait remettre en question. Comment ça que se sont bassés une crédibilité en économie? Là. Tu fais, ça vient hautement déplaisant parce qu'à mon avis, surtout en économie, il y a un aspect pédagogique à ce qui doit être fait en journalisme. Parce que c'est des concepts qui sont difficiles. Parce que c'est des concepts qui ne sont pas maîtrisés par l'ensemble de la population. Je pense qu'il y a un degré de prudence à avoir quand tu t'en vas sur ce terrain-là. Tu sais, c'est pas de la politique spectacle. Là. C'est pas l'analyse du dernier occupation double. Tu sais, il y a certaines bases.
Parce que ça s'est fait un peu l'explication futile qui a été donnée à monsieur et madame tout le monde là, par les médias, les politiciens. Ça a été dans un premier temps la cause externe. Chaîne d'approvisionnement, guerre en Ukraine, etc. Donc là, en faisant ça, ben, t'apaises un peu le genre de sentiment de frustration, parce que là, tu t'expliques aux gens qu'en gros, on contrôle pas ça, c'est pas de notre faute, puis c'est une cause externe. Mais là, quand ça suffit plus, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu trouves un bouc émissaire. Puis là, ben, en l'occurrence, c'est les épiciers. Pourquoi les épiciers? Pourquoi pas les sports experts? Pourquoi pas autre chose?
Parce que Trudeau les a amenés en commission parlementaire, Frank. Les journalistes vont juste suivre la track. Les journalistes manquent de vaillance.
C'est parce que c'est plus facile de taper sur les épiciers. Parce que, par exemple, si tu décidais de taper sur les propriétaires terriens qui refusent des réformes au système de zonage qui pourrait augmenter l'offre,
ouais,
ben, tu vas énerver tous les propriétaires qui détiennent des maisons à Toronto qui, eux, sont très contents qu'il y ait des restrictions sur l'offre parce que leur maison vaut 1 million, même si c'est des taudis, puis que normalement, tu devrais demander à être payé pour vivre dans un torchon comme Toronto. Je m'excuse, mais Toronto est une ville qui devrait disparaître, selon moi. Je déteste Toronto. Ça, okay. J'ai vécu 2 ans à Toronto là, dans ma vie. Là. Non, 1 an. Never again. Je m'excuse, là, mais j'ai un mépris complet pour cette ville-là. Pas juste parce que je suis Montréalais. Là. Je veux dire, je préférerais vivre à Québec.
Tu partais quand même, la barre est basse, tu partais de Montréal.
Ah, je sais. Écoute, ça pourrait être plus bas. Hein. Je pourrais aller à Québec.
Ouais, c'est ça.
mais anyways... Tu ne peux pas taper sur les autres groupes parce que là, tu t'aliènes les propriétaires, les gens qui ont des maisons. Puis ces gens-là sont un bloc d'électeurs beaucoup plus important que quoi? Il y a combien de propriétaires d'épiciers au Canada? Disons 5-6 000. Mettons là, pour être généreux, là, tu mets tous les employés d'épicerie, tous les gérants, tous les franchisés, 25 000 personnes.
Ça coule vraiment, hein, ce discours-là dans la population. Là. J'ai encore parlé à des gens il n'y a pas longtemps dans le détour d'une conversation. Puis là, tu arrives chez eux, mettons, ils sont en train de vider leur petit sac d'épicerie. Puis là, ils prennent la boîte de côte levée puis ils disent « Ah, ça abuse, hein? Je te dis que ça abuse vraiment. Puis ça n'a pas de bon sens que je paye ce prix-là. »
Non, quand tu regardes les marges de profit dans les épiceries, les gens ne réalisent pas. Je pense qu'on avait déjà parlé dans le passé, mais...
Ben, c'est le signe, d'ailleurs, c'est le signe d'une industrie compétitive. La marge de profit est 3%.
Sur ton steak haché, là, de 10$, tu as 30 à 40 cents de profit là-dessus. Là. Fait que le fait qu'il soit passé de 7$ à 10$, là, c'est pas le profit. Là. Ça peut pas être le profit. Il y a 30 cents de profit. Ça peut pas être ça.
En fait, la seule manière que le profit pourrait augmenter, c'est si le gouvernement disait ben maintenant, on va imposer une barrière à l'entrée. Puis là, l'épicier est là, ben je peux augmenter les prix, puis il n'y a personne qui. Puis mettons qu'il y a un petit nombre de joueurs. Parce que là, c'est seulement sous la contrainte des barrières à l'entrée que le nombre de joueurs. Ben alors, en passant, ce n'est pas juste les barrières à l'entrée, c'est les barrières à la sortie aussi. C'est-à-dire que si tu, une fois que tu es rentré dans l'industrie, tu ne peux plus quitter facilement. C'est comme si c'était une barrière à l'entrée.
Tu sais, puis la façon de s'ajuster pour les consommateurs est assez évidente dans le monde de l'épicerie, puis il y a une fluidité qui est vraiment impressionnante. Une chaîne, par exemple, si tu prends Provigo, tu vas avoir l'entrée de gamme avec Maxi, qui vraiment, c'est là que tu vas avoir les meilleurs prix. L'équivalent chez Metro, ça va être Super C. Après ça, tu vas avoir le milieu de gamme, tu vas avoir le haut de gamme. Tu sais, tu vas avoir le IGA, le IGA Extra. Tu sais, c'est un peu de même que ça fonctionne. Ils ont tous un peu le même setup. Puis, pour s'ajuster à l'inflation, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup de consommateurs qui sont passés du métro au Super C, qui sont passés du Provigo au Maxi, tout simplement. Puis je pense que c'est des ordres de grandeur, comme de 20 à 25 % d'augmentation de clientèle dans des Maxi et des Super C versus les autres, par exemple, qui subissent des baisses. Mais une chose est sûre, c'est que présentement, ça se gère par la population, cette inflation-là, parce qu'il y a encore des gens dans les IGA Extra, il y a encore des gens dans les Provigo.
Je
suis pas d'accord avec toi là-dessus, parce que ce qui se passe dans ce cas-là, c'est parce que la raison que les gens doivent faire cet ajustement-là, c'est que les prix augmentent plus vite que les salaires étant un prime, oui. Les salaires étant...
Mais mon point, c'est que ça touche pas tout le monde de la même façon. C'est plus non,
effectivement,
ça que je veux dire.
Effectivement, mais ça ne veut pas dire, tu sais, que les gens ne souffrent pas de l'inflation. Ça veut dire qu'ils doivent sacrifier des services parce que tu continues de... Tu fais en sorte que les salaires réels tombent pendant un moment puis que les gens sont obligés de se déplacer. Mais à la limite, si les salaires finissent par augmenter éventuellement parce qu'ils vont rattraper un jour, gens vont juste se redéplacer éventuellement vers ça.
C'est juste pour
une période transitoire. Je pense pas que les gens de chez Maxi puis autre chose devraient s'attendre à ce que ça dure.
De toute façon, là, les gens qui pensent que je suis péjoratif envers Maxi ou Super C, dites-vous une affaire, j'ai toujours dit la même chose. Ces deux épiceries-là, ou même le Walmart, je pense qu'il vient quand même compétitionner en termes de prix beaucoup, ces épiceries-là.
Vraiment.
C'est des épiceries où est-ce que tu retrouves effectivement, les gens un peu plus pauvres, les gens de la classe moyenne inférieure et les millionnaires. Parce que tu ne deviens pas millionnaire asti en gaspillant du cash. C'est pas plus compliqué que ça. Mais fait que c'est pas péjoratif de parler de Maxi Super C. Cassez-vous pas la tête.
Non, moi je suis tout le temps rendu là. Ça ne me gêne pas du tout de le dire.
Tu sais, fait que je rentre dans un Provigo ou un IGA Extra, puis je fais qui tombe un cher, ça, capoté là. Ça me saute aux yeux. Je dis, je vais venir juste chercher quelque chose de très spécifique, puis je vais m'en aller. C'est une exception d'aller dans ce type d'épicerie-là dans ma tête à moi. Là. Mais c'est.
Mais je pense que tu as raison pour le déplacement, en tout cas temporaire, des gens vers des chaînes qui fournissent peut-être, qui sont peut-être plus abordables parce que bon, il y a moins de services. Parce que c'est souvent ça. Hein. C'est quoi la différence entre un Maxi et un IGA? Mettons, c'est que tu arrives au IGA, souvent il y a une poissonnerie, il y a une boucherie, il y a une boulangerie, il y a des mets préparés. Quand tu arrives au Maxi Super C, il n'y a souvent aucun mets préparé ou presque. Il n'y a pas de boulangerie à part des pains, baguettes cuits sur place ou ce genre.
T'emballes
toi-même ou même carrément, c'est de plus en plus des caisses rapides avec personne, là, ce que moi, personnellement, j'adore. moins de contacts humains j'ai, le mieux je me porte là, dans ce genre d'endroit-là. No offense, hein, j'ai rien contre les caissiers et les emballeurs, là, mais j'aime ça faire mes propres shit. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que T'sais, moi, en tant que cheap national, je regarde tout le temps les circulaires. Là. Et depuis que les prix ont commencé à augmenter, je remarque que certaines chaînes qui sont réputées comme étant plus chères ont des rabais très, très agressifs. Et moi, je soupçonne que c'est parce qu'ils voient de la clientèle aller. Fait que tu sais, il y a comme un effet là, de back and forth là-dedans. Là.
Mais ça veut dire que ça, c'est probablement temporaire. Ouais. C'est la minute que les salaires vont recommencer à augmenter. Pour que, en fait, en faisant l'hypothèse que la Banque centrale continue de mettre le pied sur le frein pour arrêter de créer de la monnaie, ce que je doute, honnêtement, le niveau de commitment.
Il est plus fort présentement aux États-Unis qu'au Canada. Au Canada, on est rendu. Dans le commitment, c'est très mollasson. Puis aux États-Unis, il y a encore
un désir d'augmenter. Je suis prêt à dire que tu as raison là-dessus, mais. Plus fort, mais ça ne veut pas dire que c'est fort. Hein? Je veux dire.
Non.
Mon kid de 3 ans, il est plus fort que mon kid de 8 mois, mais il n'est pas exactement très fort.
Ouais, mais attends un peu, là, au Canada, avec les négociations dans le secteur public où ils sont obligés de proposer des 15% d'augmentation aux fonctionnaires, tu vas voir qu'ils vont avoir hâte que l'inflation arrête aussi. Là.
Ben, écoute.
À mon avis, là.
Mettons les fonctionnaires de côté 2 secondes là, pour l'affaire de Yann. C'est que, ce qui se passe présentement, c'est que tu as probablement des gens qui se déplacent entre épiceries, justement, puis que ce que les épiciers qui ont plus de services ont peur, c'est que les gens développent des habitudes. Parce que des fois, c'est pas facile c'est de changer les habitudes que les gens ont, puis que ces habitudes-là, que tu deviennes attaché. Puis ça, c'est la raison que les épiceries, en réalité, c'est compétitif, mais c'est ce qu'on appelle de la compétition monopolistique. C'est qu'ils se font compétition sur la marque, sur les types de services associés avec la marque. Puis généralement, les consommateurs développent une affection pour une marque et il faut que tu les attires vers une autre marque avec de la publicité, avec des efforts.
Les cartes de fidélité.
Ben c'est ça. Mais là, si tu as peur que pendant le choc transitoire, qu'il y ait un élément du transitoire présentement qui devienne permanent, ben peut-être que, par exemple, IGA, qui est probablement le plus haut de gamme au Québec, là, avec Adonis, fait des efforts pour attirer des gens, pour conserver un certain nombre de consommateurs pour que quand les salaires vont revenir au niveau réel qu'ils étaient avant, les gens vont se redéplacer vers eux. Ils vont se redéplacer au complet vers eux, ou du moins la vaste majorité. Ils ne veulent juste pas que les gens disent « Ah, finalement, tu sais, j'aime ça, Maxi, j'aime ça aller là. » Je pense présentement, puis ils sont en train de se dire « C'est mieux de sacrifier un peu de profit maintenant pour conserver le même stream de revenus dans l'avenir. » Mais ça, l'affaire, c'est que c'est coûteux dans le sens… C'est coûteux économiquement parce que tu es en train de forcer des entreprises à faire des choix en 2 négatifs. Puis lequel des deux est le moins problématique? Tu n'aurais pas eu à faire ce choix-là avec l'inflation. C'est basé uniquement sur le problème que le gouvernement a fait, qui n'est pas des chocs sur le coût, mais des chocs sur la quantité de monnaie en circulation. Je réitère ce point-là que tout, et très peu de gens ont l'air de vouloir comprendre. Colisse, l'inflation, c'est un phénomène monétaire.
Mais c'est quand qu'ils vont y arriver, Vincent? C'est-à-dire... À un moment donné, on est-tu dans la mauvaise foi? Là?
Je veux dire, est-ce que PSPP vous contournez? Est rendu, là,
PSPP est rendu. Oui, mais tu sais, je veux dire, c'est à quel moment qu'on peut dire que c'est de la mauvaise foi? Parce que là, à un moment donné, il y a des limites.
Non, je pense qu'à ce point-ci, c'est... Écoute, il y a un autre effet aussi, c'est que ils écoutent beaucoup les économistes des banques, puis j'ai rien contre les économistes des banques en général, mais le problème, c'est... Non, c'est parce que tu peux pas être un vendeur. You can't be a gloom and doom seller. Si ta job, c'est de vendre des investissements.
Ben non.
Parce que tu es en train de demander à des gens de venir déposer des fonds chez vous pour que toi, tu les places chez d'autres personnes. Tu vas pas être le doom and gloom guy. Fait que tu as comme une sorte.
C'est comme si tu demandes au concessionnaire au coin de la rue, c'est-tu le temps d'acheter un char? Là?
Oui. Ouais, puis à l'inverse, le doom and gloom guy, généralement, quand tu grattes un peu, qu'est-ce qu'il fait? Il vend de l'or. C'est à peu près tout le temps ça. Là.
Il y a toujours quelque chose de même, moins.
Mais l'affaire,
c'est que... Puis ça, c'est vraiment le gros problème des journalistes. Puis c'est pas dans le sens qu'ils sont paresseux. En fait, je pense qu'il y a un peu de lâcheté là-dedans. Là. C'est parce que ceux qui ont intérêt à se prononcer... En fait, je vais compter une anecdote. Milton Friedman était probablement l'économiste qui parlait le mieux aux médias de l'histoire de l'humanité. Il était capable de vulgariser des choses hyper complexes, très simplement. Et il y a très peu d'économistes qui sont capables de faire ça. Quand Robert Lucas, qui est aussi un Nobel en économie, 1995, a remplacé, a pris le poste à Friedman à Chicago. Il a eu le même endowed chair. Des journalistes voulaient rencontrer Lucas. Lucas, qui était un fumeur en série, il fumait un clope par il fumait un paquet par conversation. Il était vraiment c'était un fumeur comme il était non-stop. Ça n'avait aucun sens. Si tu vois des photos de lui, tu peux voir
qu'il,
qui fumait genre 3 paquets par jour, là, à la limite. Ah. Le gars, c'était absolument. Puis il est encore en vie, by the way. Hein. Il a comme 90 présentement.
Il doit avoir des belles dents.
Ah, mais il a arrêté.
En fait, genre, c'est sa gueule qu'on voit sur les paquets au Québec. Là. C'est...
Probablement. Mais anyways, le journaliste, il dit, après la première entrevue avec lui, parce qu'il voulait faire la même chose qu'il faisait avec Friedman, il dit « Je suis pas capable de le comprendre. » Le gars, il est clairement brillant, mais je suis pas capable de le comprendre. Non seulement ça, mais il équivoque toujours. Mm. Il fait toujours toutes les nuances nécessaires.
Il est dol.
Il était dol. Puis la réalité, c'est que Bob Lucas est probablement plus proche de l'économiste médian que Milton Friedman l'était en termes de capacité à vulgariser. Fait que là, ce que tu t'imagines, c'est que déjà là, dans la profession, tu as vraiment une petite proportion de gens qui sont capables de se prononcer publiquement. Dans ceux qui sont capables de se prononcer publiquement, tu as des biais qui vont apparaître, qui sont ceux du métier auquel ils vont être associés. C'est soit qu'ils se prononcent pour des raisons idéologiques ou qu'ils se prononcent à cause de le domaine dans lequel ils travaillent. Et là, ce qui se passe, c'est que là, uniquement, cette petite minorité-là devient visible et accessible pour le journaliste, même si ce n'est pas le corpus d'expertise. C'est pour ça que quand les gens disent, ça s'applique aussi à d'autres domaines, hein, quand les gens disent les experts ou la science, souvent, tu as tellement de nuances qui vont disparaître dans ce qui est accessible aux journalistes parce que ceux qui se prononcent publiquement, genre Roxane Borges da Silva, qui est l'exemple classique au Québec, elle se prononce très, très bien, mais elle n'est clairement pas la médiane, puis elle n'est clairement pas représentative. Non seulement ça, mais ce n'est pas une économiste. Fait que, tu sais, elle connaît juste uniquement un petit domaine, puis elle se prononce très, très bien sur ce petit domaine. Et ça, les journalistes vont dire, ben là, c'est l'expert.
Il y a consulte pour trop d'affaires, c'est ça que tu veux
dire. Il y a consulte pour trop d'affaires, mais là, ce qui se passe, c'est que tu as comme un biais d'accessibilité à l'information, puis tu présumes que ce qui est accessible de manière aléatoire, que c'est il n'y a pas un biais dans ce qui devient accessible. En réalité,
c'est qu'il y a un prix à payer. Malheureusement, tu as un prix à payer aussi pour prendre la parole publiquement. Tu sais, quand il y a question, je trouve le meilleur exemple, c'est l'environnement, mettons. Si on t'invite, on s'attend. Ben, c'est les gens des médias, puis visiblement une partie du public, s'attend à ce que le discours que tu tiennes, c'est celui de l'Or Varidel, c'est celui d'Équiterre, c'est celui de tous ces organismes-là. Puis quand tu arrives en mode Pierre Desrochers, ben là, les emails rentrent un en arrière de l'autre. Je porterai plainte contre votre institution, telle affaire. Fait que tu sais, les gens qui ont un autre discours, qui peut-être représentent peut-être plus un consensus ou une modération, ou même carrément qu'ils sont de l'autre bord, bien, ça ne lui tente pas de payer tant que ça le prix de se faire écœurer par des gens.
Il y a ça aussi.
Je pense que c'est sous-estimé.
Mais en fait,
juste qu'on conclure là-dessus, pour revenir à l'affaire de l'inflation, c'est que moi, je pense que le prix qui était à payer pour que quelqu'un aille dans les médias et dise la bonne affaire, c'était de se taper le « Ah, bon, c'est bien, lui, il doit être un pro Pierre Poilievre, un conservateur. » Puis là, finalement, tu te ramasses avec une réputation, entre guillemets, de marde sur le dos, même si je pense pas que
être associé à
ça, c'est mauvais. Là, mais je pense que c'est vraiment ça l'enjeu. Là.
C'est ce qui est arrivé avec PSPP. Quand il a parlé comme ça,
la question
du journaliste qui est venue, la première, pourquoi vous avez le même discours que Poilievre? En fait, je pense que ce qu'on a réellement besoin au niveau du journalisme économique, là, je ne mettrai pas tous les journalistes là-dedans, là, la plupart sont idiots et il n'y a rien à faire qu'eux autres. Mais les journalistes économiques, à un moment donné, il va falloir qu'on ait une base d'économie avec ces gens-là. Là.
Moi, je comprends ce que tu veux dire, mais moi, je ne suis pas sûr que « idiot », c'est le terme qui est employé.
Paresseux.
Je pense que vraiment, c'est que…
Stupide.
Ben, c'est parce que…
Mauvaise foi.
Non, mais c'est juste d'être conscient. Puis ça, c'est… Écoute, là, je vais être généreux, moi. Fait que Frank peut passer générosité en cours. Dès que tu es conscient de tes biais, là, comme personne, que tu sais qu'un des biais, mettons, comme par exemple, moi, ce que je sais comme biais, c'est que j'ai mes billets de confirmation. Si je trouve ce que je pensais déjà, je suis très content. Mais en réalité, si ce que je ne veux pas faire, c'est justement pas tomber dans ce biais-là que je sais que je suis susceptible de souffrir de, ben les journalistes aussi devraient être conscients de c'est quoi leur biais à eux. Puis il n'y a jamais, j'ai pas vu de journalistes qui ont cet exercice critique de dire quelle est la faiblesse à laquelle je suis le plus susceptible de succomber.
J'anime une émission d'économie, puis j'ai jamais fait ma macroéconomie dans ma vie, un cours universitaire. Ça se peut-tu, ça? Que ce soit un biais?
Ben, tu sais, si ton point de départ, c'est tu veux démontrer que les épiceries font de la greedflation, ben, c'est sûr que si t'es pas trop attentif à tes biais, puis t'appelles un économiste ou une économiste avec qui t'as, puis elle te répond au téléphone, non, ça n'a pas rapport, là. Moi, je passe pas à TV pour dire un affaire de même. Ben, est-ce que t'es assez honnête pour changer ton idée là-dessus? Ou tu vas juste appeler du monde jusqu'à temps que t'en trouves un qui accepte de venir dire ce que t'as envie d'entendre?
J'ai parlé à Stéphane Brouillard hier, qui est un gars d'hypothèque en région de Québec, qui annonce sur Radio Pirate. Je l'ai croisé au bureau, puis j'ose avec lui. Il a fait des interventions dans les deux dernières semaines dans les médias avec TVA. Fait que dans l'écosystème médiatique de Québec, ben, ils se connaissent, tu sais. Il n'y avait pas de problème. Fait qu'il parlait à Décoto, il parlait à Zappa, tout ça. Fait qu'il a fait des entrevues, puis tout était correct, tout sortait, qu'il était bien cité, puis tout ça. Fait qu'évidemment, la gang de TVA Montréal voit ça aller. Ils disent hey, il parle bien ce gars-là. Fait que La Rock invite Brouillard à passer à son émission. Et pendant le 5 ou le 10 minutes qu'il a à faire avec lui, tout ce que La Rock essaie de faire, c'est de lui faire tenir un discours apocalyptique puis d'essayer de rendre ça plus gros puis plus épeurant que c'est. Il dit, tu sais, à un moment donné, moi, c'est fini. Là. Probablement qu'ils ne me réinviteront plus parce que j'ai pas été capable de dire ce qu'ils voulaient que je dise. Puis de l'autre côté, moi, je suis plus sûr que ça me tente d'y aller parce qu'il essayait de me faire dire quelque chose que j'avais pas le goût de dire. T'sais.
Ouais, puis si t'es pas alerte aux pièges qui te sont tendus la manière dont les questions sont faites, Chris, tu peux finir. Fois, après, t'es dans ton char, tu retournes chez vous, tu te dis, finalement, ils ont réussi à me faire dire de quoi que je pense
pas. Mais le pire, c'est que c'est même pas des pièges dans le sens que c'est comme qu'ils essayent de te faire dire quelque chose que tu veux pas. C'est que il essaie de te faire parler sur quelque chose que lui voit complètement différemment de toi, mais toi, tu n'es pas important sur ce que lui a vraiment envie que tu lui dises. C'est comme c'est plus ça. Subtil que ça. Puis quand je parle de biais, là, c'est vraiment ces affaires-là qui se produisent, ces genres de biais de qui est l'animateur, qu'est-ce que l'animateur a comme priors? C'est quoi l'auditoire auquel il s'adresse? Et est-ce qu'il y a des biais sur les sujets, sur ce qu'il doit choisir? Est-ce qu'il y a des biais dans l'accessibilité au type d'information? Puis la réalité, c'est que des shows comme le nôtre, là, où il y a beaucoup d'équivoques, parce que ça arrive des fois, tu sais, que je vais dire quelque chose comme je ne sais pas. Tu ne peux jamais dire ça comme expert en public. Je ne sais pas la réponse.
Oui, mais tu n'as jamais une heure non plus pour jaser d'un sujet. Là.
C'est ça. Là.
Ben c'est ça. Fait que tu sais, les biais, ça peut venir aussi du type de médium que tu utilises. Le podcast a des biais dans lesquels il faut que tu passes un peu par-dessus certaines nuances, parce que tu veux parler d'un sujet en plus large, mais tu peux parler d'une nuance plus longtemps, mais tu oublies l'aspect général, tu as moins de punch. Il y a tellement de biais que... Tu dois être conscient de ça, mais j'ai jamais vu cet exercice critique-là chez des journalistes. Puis le meilleur exemple, c'est Laure Varidel dans le débat avec Pierre Desrochers, parce qu'elle a eu un débat en 2006 contre Pierre Desrochers. Et non seulement ça, elle avait été rincée par les mêmes arguments. Puis à chaque fois, puis tu l'as entrevue, la clip qui m'a vraiment fait un peu frustré, c'est elle a fait elle a fait une sorte de petit soupir irrité. C'était le même petit soupir irrité qu'elle avait fait en 2006, comme si c'était inopportun de lui poser, de questionner son paradigme, de questionner sa manière de voir les choses.
Il est qualifié d'office.
Mais il y a 13 ans entre ces deux entrevues-là. Et dans les 13 ans, mais l'entrevue dans le temps, la première, elle avait circulé beaucoup. Là. C'était à la limite une petite légende dans la droite québécoise et même elle circulait encore sur Internet. Dans le temps, il y avait Radio Ego. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça.
Bon, oui.
Ils avaient la clip là-dessus. Ça avait duré longtemps. Il n'y a aucun journaliste qui a senti le besoin de poser des questions de suivi à Mme Varidel. Et elle, donc, n'a pas senti le besoin de faire un investissement pour s'exposer à l'argumentaire de Pierre Desrochers, de telle sorte que 13 ans plus tard, elle est tout aussi surprise que la première fois comme si c'était une vierge à l'argument de M. Desrochers, qu'elle n'avait jamais rencontré cet argument-là. Mais ça, c'est probablement l'image en une semaine du manque d'efforts à être conscient des biais auxquels on a, parce que n'importe qui a vu la réaction de Varidel à Desrochers aurait probablement juste regardé un peu qu'est-ce exactement que Desrochers dit que Varidel ne partage pas, puis pourquoi il y a eu un clash comme ça, puis une réponse aussi viscérale de Varidel. Encore une fois, c'est insultant, là.
Ce qui manque définitivement au Québec, c'est je pense que ça clash énormément. Tu sais, je veux dire, il y a des innocenteries qui se disent par les journalistes économiques québécois que, tu sais, tu ne retrouves pas dans Bloomberg, que tu ne retrouves pas dans le Wall Street Journal. T'sais, à un moment donné, c'est rendu grotesque et grossier. Puis la principale raison, c'est qu'à peu près tous ceux-là qu'on veut qu'ils parlent de finances et d'économie n'ont pas d'éducation en finance ou en économie. C'est pas pour rien que Pierre-Yves McSween a un bon succès dans ce qu'il fait. Christy, c'est à peu près le seul journaliste économique qui a étudié là-dedans. Et encore là, c'est de la comptabilité, là.
Merci. C'est très important que tu le dises.
Tu sais, je veux dire, c'est pas que Pierre-Yves McSween est exceptionnel. Christy, c'est le seul qui a un peu de compétences dans le domaine.
Exceptionnel.
Les autres, la manière qu'on remplissait les rôles de journaliste économique, c'est ouais. Un journal normal, ça parle d'actualité, de faits divers, de sport, puis au milieu, il y a une couple de pages financières et économiques. Qui c'est qu'on met là? Je sais pas. Y a-tu quelqu'un qui. Ah, prends le nouveau, là, prends le jeune. Ouais, mais j'ai étudié en communication, c'est pas grave. Lis en anglais, traduis un peu. T'es-tu bilingue? Ouais, ben, traduis un peu, mets ça là-dedans. Puis fais des bons textes, traduis de l'anglais. Puis un moment donné, tu vas comprendre. Puis un moment donné, là, tu vas te créer une réputation, puis ça va être toi le journaliste économique du journal.
Ben, t'avais eu une entrevue, puis après ça, on va passer sur Patreon dans un autre sujet beaucoup moins généreux. Mais t'avais eu une entrevue, un moment donné, de Gérald Filion, où il disait qu'avant de rentrer en onde, la première fois qu'on lui a demandé de faire ça, il savait pas c'était quoi le Dow Jones.
Y a-tu dit ça à voir?
Oh, oui, il a dit ça pour de faudrait que je retrouve l'audio.
Ça, tout le monde en parle. Hein?
C'était à tout le monde en parle, je pense. Tu sais, parce qu'il. En gros, Guillaume Lepage, il avait
tu
demandé.
Tu devrais même pas te vanter de ça.
Non, moi, je l'aurais caché, honnêtement. Il y a un côté bonhomme, là. Il y a un côté bonhomie dans son histoire, là, c'est qu'il dit un peu candidement, un peu pour dire, j'ai travaillé, j'ai réussi à me rendre
dire,
là.
Ça veut dire que tu penses que tu peux apprendre ces affaires-là sur le tas, puis que.
C'est pas parce que tu as eu 250 économistes différents dans ton studio que tu es rendu capable de comprendre ce qu'ils te disent.
Ouais. Mais les sciences sociales au sens large ont ce défaut-là, c'est que bien des gens pensent que, tu sais, parce que tu verrais jamais ça. Il y a personne qui dirait, hey, il y a personne qui trouverait ça normal quelqu'un qui est amené à la télé pour faire des chroniques de médecine, il ne savait pas c'était quoi un cœur ou un cerveau avant de rentrer sur le plateau, puis qu'on l'écoute pareil. Mais les sciences sociales n'ont pas la crédibilité, malheureusement, dans bien des cas, de sciences plus naturelles ou exactes, ce n'est pas le terme que vous voulez utiliser. Fait qu'on pense que tout le monde qui lit un peu là-dessus peut se prononcer, puis que c'est bien correct. Mais malheureusement, si vous faites venir un pharmacien ou un médecin ou un physicien, ou un géologue, tout le monde a conscience que tu ne peux pas être l'expert en géologie sur le plateau puis avoir fait un cours en théâtre.
Écoute, tu vas dire de quoi là-dessus, là, puis on peut passer au Patreon. Mon collègue ici, Tyler Cohen, m'a fait part de quelque chose qui lui, il a le blog Marginal Revolution, il écrit pour Bloomberg toutes les semaines. C'est une star dans le monde économique. Là, okay? Mais Tyler a publié beaucoup d'articles scientifiques, puis à un moment donné... Moi, j'ai dit que un de mes collègues dit « Pourquoi tu blogues pas plus? Pourquoi tu n'écris pas plus dans les médias? Pourquoi tu n'essayes pas de te prononcer plus souvent? » Je le dis, je le fais uniquement quand je suis bien payé. C'est littéralement ça. Ou pour le fun avec des amis. Mais
Caribbean Island.
Ben, Caribbean Island. C'est important. Mais j'ai dit « Je ne veux pas le faire parce que des fois, je ne sais pas exactement ce que je pense sur un sujet. » Puis Tyler, il me dit « Vincent a le bon réflexe. » Il dit « Moi, ça m'a pris... » Pendant comme 20 ans, Tyler publiait des articles scientifiques pour comprendre ce que lui-même pensait avant d'en venir à faire des chroniques toutes les semaines. Mm-hmm. Parce qu'à un moment donné, tu as construit un capital intellectuel de ce que
suffisant
pour faire ça. Puis ça m'a fait, quand il a dit ça, ça m'a fait regretter mes 2 années au Journal de Montréal. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'ai perdu du... Étrangement, j'ai appris par erreur, mais que j'imagine toutes les choses, si j'avais, au lieu d'écrire des chroniques, des blogs, des choses comme ça, j'avais pris le temps plus d'écrire des articles scientifiques, j'aurais probablement plus découvert de choses que ce que j'ai découvert en écrivant ces affaires-là.
Ouais, ça reste que votre profession, Vincent, vous avez un foutu problème, c'est que vous ne rendez pas votre message au public, au grand public. Ça, je m'excuse, mais c'est problématique.
Mais mettons que ça n'aurait pas dû être un gars de 25 ans qui le fait, ça aurait dû être un gars de 40. Moi, je ne pense pas que j'étais la bonne personne. Je suis
plus qualifié que n'importe qui d'autre qui a passé au Québec calice pour parler d'économie. Là. Je m'excuse. Là. Garde. La preuve. Je comprends ce que tu dis pour toi au niveau individuel, mais sacrément, dans le temps que tu écrivais dans le Journal de Montréal comme économiste, tu étais vraiment meilleur que n'importe qui d'autre. Là. C'est comme Nathalie Elgrabli, elle ne fait pas des grosses recherches pour parler, là, mais elle fait pas mal plus de bien que de mal en écrivant dans le journal.
Oh oui, oh oui.
Puis aussitôt que quelqu'un arrive avec un minimum de rigueur, sérieux, tu le remarques tout de suite. Là. Fais juste voir les articles que David Decoteau a écrits dans le journal depuis un bout. Là. Moi, je ne m'étais pas aperçu qu'il en écrivait. Le mané, genre, hein, c'est David qui écrit ça. Puis là, tu le vois tout de suite, la manière dont les faits sont apportés. Puis là, tu es comme, OK, là... Il y a comme un autre niveau de structure, puis ça manque beaucoup, malheureusement.
Non, c'est pour ça, parce que je comprends que dans un contexte où est-ce que tu es PhD, tu veux enseigner, tu veux faire beaucoup de recherches, tu peux voir le journal comme étant une perte de temps, définitivement. Je comprends ce bout-là pour toi. Mais Christy, au moins, tu as une compétence que tu peux partager, sacrifice. Là, tu sais, je veux dire, on est pogné Stéphanie Gramont, calice. On veut des gars comme toi à place.
Je comprends, mais l'idée, c'est que tu peux pas... Ce que je dis, c'est que tu peux pas vraiment le faire. Je pense pas que tu peux être capable de faire du commentaire chaque semaine. Sauf si t'es Mathieu Bock-Côté, là, qui a une érudition quand même assez incroyable. Mais à l'exception de
ça. Ça casse pas ta tête.
Oui, mais tu pourrais dire que des fois, moi, j'écris des niaiseries aussi. Là. Tu peux dire que même si tu es d'accord avec moi en général, je suis sûr que tu dirais la même chose. Si j'avais à écrire chaque semaine. Mais en réalité, c'est que les chances que tu dises des niaiseries ou que tu dises des choses folles sont beaucoup plus grandes, sont beaucoup plus petites, excuse-moi, si tu as passé plusieurs années comprendre ce que tu veux dire. Puis à un moment donné,
tu t'imposes la perfection, Vincent. Je comprends ce que tu dis. Tu t'imposes un devoir de quasi-perfection. Tu ne veux pas dire de fausseté, ainsi de suite. Mais ce serait le fun que les journalistes aient de la rigueur comme ça de temps en temps.
Oui, mais moi, ce que ça confirme aussi, c'est peut-être quand on disait que quand je dis arrêter de lire les journaux, là. Arrêtez de lire des gens qui doivent faire un opinion.
Ouais, ça n'arrivera pas. Les gens vont les lire pareil, les journaux.
Oui, mais en même temps, je regarde juste ce qu'on fait. Là, le temps, le une heure que les gens ont fait en écoutant nous autres, c'est une heure qu'ils n'ont pas passé en lisant d'autres médias traditionnels. Ouais,
mais c'est mon point, Vincent, c'est que naturellement, vous ne le faites pas. Sérieusement, je t'appelle pas pour faire ce podcast-là. Là. Tu le fais-tu?
En fait, je le partirais, je ne saurais pas comment partir ça tout seul.
Exactement. C'est le grand défaut des académiciens, c'est exactement ça. Vous avez une grande difficulté à transmettre votre savoir qui est très précieux à la population générale.
Ouais, ou quand ils partent un projet comme ça, parce que je l'ai vu dans d'autres domaines, ils partent un podcast ou une émission, puis c'est destiné à eux-mêmes et leur père.
Exact. Exact. C'est vraiment quelque chose qui est amélioré.
Je te garantis que si t'étais pas là, Yann puis Frank, là, je m'excuse, mais je veux dire, le nombre de fois là, que j'ai dit, j'aurais parti sur des diatribes ben trop complexes. Le fait est que 90% du temps, vous me gardez, tu sais.
Bon, oui, compréhensible. C'est un bon job, c'est parfait. Mais c'est ça qu'on a besoin. Parce que pour contrer la stupidité auquel le peuple est confronté, là, surtout au Québec, tu sais, parce que. Aux États-Unis, il n'y a pas ce problème-là. Le Wall Street Journal, il est là. Je veux dire, si tout le monde au Québec lisait le Wall Street Journal, là, il y aurait bien des affaires qui iraient mieux. Mais ils ne peuvent pas le lire. Christy, c'est en anglais. Fait qu'on est pogné avec ça. Fait que là, il faut qu'il y en ait des gens qui essayent de traduire le Wall Street Journal. Parce que pensez pas que c'est pas ça qui arrive. Moi, il m'avait demandé, le Journal de Montréal, d'écrire des textes pour eux autres quand j'avais publié dans Dettes à millionnaires. J'en ai écrit deux. Et le gars qui s'occupait de ça, il dit « Ouais... » J'aime pas ben ça. J'aimerais plus que tu ailles dans cette direction-là. Enfin, j'ai réécrit les textes. Ouais, j'avais plus pensé à quelque chose qui ressemble à ça. Il m'envoie le texte en anglais, puis il voulait que je le traduise. Là, j'ai dit, garde, buddy, là.
Ouais, puis toi,
tu ne paieras pas hein, assez cher, Asti, pour me dire quoi écrire dans mes textes, tabarnak. Fait que c'est, tu prends ce que je t'envoie ou il n'y a plus de texte? Ben, il n'y a plus de texte. Oui.
Ouais.
Si je veux un bas, je vais m'en acheter un, Asti.
Mais ouais, j'ai de quoi à dire par rapport à ça. On, je pense qu'on va le faire sur Patreon. Ça va être. Parce que ça risque d'être moins généreux. fait que joignez-vous.
Abonnez-vous, puis joignez-nous sur Patreon.
Exact.